Alléluia. Alors, bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Amen, amen. Alléluia. Si vous voulez, avant de débuter, on va faire une déclaration. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et prendre votre Bible ou votre tablette. Alors, on prend notre Bible, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez répéter après moi, à haute voix, avec foi, ceci est ma Bible. Je suis ce que je suis. Pardon. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je serai enseigné par la parole de Dieu. Je confesse que ma pensée est éveillée, que mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Prenez vos sièges. Alléluia. Alors, nous sommes rendus à ce merveilleux temps de l'année qui est Noël. Et puis, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est de recevoir le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu. Alors, Seigneur, bénis ta parole qu'on veut lire, qu'on veut méditer, qu'on veut recevoir, et surtout ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen. Alors, comment allez-vous célébrer Noël cette année? Un échange de cadeaux? C'est bien. Des rencontres familiales dans la famille. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est des jours de congé, une semaine de congé. Ma fille, qu'on a eue hier avec nous, elle a 2 semaines de congé, donc elle a crié à haute voix, « Je suis en vacances! » Alors, pour elle, c'est beaucoup. Cette fête de Noël, ça lui rappelle les temps de vacances. Ou encore d'autres, c'est pour festoyer ce temps des fêtes de Noël. Mais le plus beau cadeau que Dieu puisse nous avoir fait, c'est qu'il a donné son Fils. Donc, on va regarder à l'origine, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu a tellement, a beaucoup, a abondamment aimé le monde, les gens qui sont dans le monde, pas le système de ce monde, mais les gens qui habitent ce monde. Alors, Dieu aime sa création. Il aime ce qui lui appartient. Il a créé l'homme, la femme à son image. Alors, Dieu aime ce qu'il a créé. Alléluia. Au point qu'il a donné. Il n'a pas échangé, il n'a pas vendu, il a donné. Quand on aime, on donne. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils unique, son seul à ce temps-là, son Fils unique, maintenant il a plusieurs fils et filles. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on devient fils et fille de Dieu. Mais à ce moment-là, il avait un Fils unique. Alors, il a donné le cadeau de son propre Fils, Jésus-Christ. On peut regarder encore ce verset qui est tellement beau. C'est le verset le plus connu dans le monde entier. Dieu attend. Aimer le monde qu'il a donné, son Fils unique, afin, le pourquoi, que quiconque, n'importe qui qu'on soit, blanc, noir, français, anglais, qu'importe la nationalité, afin que quiconque croit, pas simplement d'ici de la tête, là, mais croire dans son cœur, afin que, le pourquoi, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, qu'il n'ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas d'enfer pour lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait le verbe avoir maintenant, qu'il possède, qu'il ait l'assurance de son salut. Alors, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. J'aimerais vous lire un extrait encore qui n'est pas là, là. C'est dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Et il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alors, il aime tellement sa créature. Dieu est en amour avec l'être humain qu'il a créé. Alors, Dieu n'est pas fâché. Il n'est pas de mauvaise humeur. Il est content, il est heureux de sa création. Et surtout lorsqu'on reçoit ce qu'il nous a donné le jour de Noël, son propre fils. J'écoute souvent Joyce Meyer avec mon épouse, et puis elle lisait récemment une lettre de quelqu'un qui lui a écrit. Je vais vous en faire la lecture. Elle lisait une lettre d'une dame qui racontait l'événement suivant. Lorsqu'elle était au collège, à une heure de route de chez elle, ses parents. Vu que l'année au collège se terminait bientôt, elle, plutôt que de prendre l'autobus pour aller au collège, son père lui propose de lui prêter sa voiture et elle pourrait alors ramener tous ses bagages. Alors elle partit avec la voiture de son père et après quelques jours plus tard, elle s'aperçut qu'elle allait retourner à la maison bientôt, mais depuis quelques jours, en conduisant la voiture, elle avait remarqué qu'en conduisant, il y avait un clignotant qui s'allumait au panneau de bord. Elle était étonnée, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle regardait, vu que son père avait tellement pris soin de la voiture, alors elle ne se souciait pas plus que cela. Mais bientôt, l'auto ne voulait plus avancer. De la fumée sortait du moteur et l'auto tomba en panne. Elle a paniqué et elle dut abandonner la voiture. Elle retourna à sa chambre et appela son père en larmes et l'informant de ce qui était arrivé. Le père répondit, « Je vais prendre notre autre voiture et je vais aller voir cela. » Elle se sentait coupable d'avoir ignoré le clignotant du panneau de bord de la voiture. Alors, elle s'attendait à ce que son père lui donne toutes sortes de critiques, de paroles accusatrices de sa négligence. Le père arrive et avec sa fille va voir la voiture en panne. Il constate que le moteur a manqué d'huile et que le moteur est brûlé et que la voiture est ruinée. Elle s'attend à des critiques sévères. Mais non, le père lui demande où est le meilleur restaurant ici en ville. Et il l'invite à aller prendre un repas avec lui. Encore, elle pense... Il va bientôt être fâché contre moi. Mais le père ne dit pas un mot à sa fille de la perte totale de la voiture. Il n'a même pas parlé de cela. Elle est tout étonnée. Et elle dit des années plus tard, elle a maintenant 60 ans, cette fille se rappelle encore l'amour de son père. Quelle image du Dieu envers nous. Il ne nous critique pas, il ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas. Comme le père ici n'a pas dit un mot d'accusation à l'égard de sa fille, il a eu compassion d'elle. Ainsi est notre Dieu à l'égard de nous, ses créations, sa création. Alléluia. Alors, on veut regarder maintenant encore dans la parole. On regarde dans ce passage que vous voyez à l'écran, là, Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les attitudes, la pensée qui était en Jésus-Christ, lequel Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Dieu a fait cela. Alors, Jésus existait en forme de Dieu, a pris une forme humaine. Et le verset 6, si vous l'avez là, verset 6, « Ayant en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il existait en forme de Dieu auparavant, avant sa venue sur la terre. » Et cela nous rappelle que il a pris une autre forme. Dans Jean chapitre 4, Jésus va dire à la Samaritaine que Dieu est esprit. Alors, Jésus existait en forme d'esprit, a pris une autre forme, une forme terrestre, en se revêtant d'un corps humain. Alors, il est venu, puis le verset 7 va nous le dire aussi, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. C'est difficile un peu pour nous à comprendre quelquefois, puis on voudrait tellement saisir la Trinité, puis comprendre ce qui n'est pas comprenable pour nous ici-bas maintenant, mais un jour nous comprendrons mieux et complètement. Mais Jésus a pris une autre forme. C'est un peu comme la chenille. À un moment donné, elle prend une autre forme. Elle devient un papillon. Alors Jésus, existant en forme de Dieu, a pris une forme humaine. Et encore, dans Hébreux chapitre 1, on va regarder Hébreux chapitre 1. Et on regarde au verset 1 à 3. Alléluia. On est rendu, on avance. Bon. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, vous voyez, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. Auparavant, c'était par les prophètes que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais dans ces derniers temps, verset 2, il nous parle par le Fils. Le Fils est le reflet. C'est un peu comme le soir quand vous marchez, puis l'ombre que vous avez, vous voyez votre ombre devant vous, comme je vois maintenant mon ombre là, et puis mon ombre recule. Alors Jésus est l'ombre, est l'image parfaite de Dieu le Père. Jésus est venu nous révéler le Père, nous faire connaître le Père. À quoi ressemble Dieu? Les gens demandent, bien, regardez à Jésus. C'est simplement, vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble? Regardez à Jésus. Où voit-on Jésus? Dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans Matthieu, vous voyez Jésus comme un roi. Dans Marc, vous le voyez comme serviteur. Et dans Luc, vous le voyez comme le Fils de l'homme. Et dans Jean, vous le voyez comme le Fils de Dieu. Alors, regardez dans les quatre évangiles, vous allez voir Jésus, puis Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Belle explication, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. Vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble? Regardez Jésus. Il est tellement merveilleux, ce Sauveur. Plein d'amour, plein de grâce. Alléluia. Et encore, on peut regarder maintenant dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. Matthieu 1, 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, dire du mal ou penser du mal d'elle, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Il n'y a pas eu de relation intime avec elle, parce que Jésus était dans son sein à Marie. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Enceinte par la vertu du Saint-Esprit, verset 18. Ça prenait cela pour que Jésus soit sans péché, qu'il n'ait pas cette nature pécheresse avec laquelle nous naissons. Nous venons, c'est transmis de père en fils, avec cette nature pécheresse. De sorte que, par le Saint-Esprit, Jésus n'a pas été transmis cette nature pécheresse. Alors, ça prenait une vierge qui n'avait pas connu d'homme et qui, par la vertu du Saint-Esprit, allait enfanter. Et Jésus était sans péché. Impossible pour nous à comprendre. Pas une tâche originelle ou, si vous voulez, mortelle ou quoi que ce soit. Jésus n'avait rien de mal en lui, aucun péché. On ne pouvait pas rien lui reprocher. Alléluia. Alors, il n'avait pas cette nature pécheresse que nous avons. C'est sûr que ça nous prenait un sauveur parfait, immaculé, sans péché complètement. Ce qu'il est venu faire sur la terre, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Alors, vous voyez, Jésus allait à l'église. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alors, on doit lire la parole. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé. À ce moment-là, c'était un rouleau. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et on lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph, Marie, puis on les connaît. Comment ça se fait que lui possède une telle sagesse? » Ils n'y comprenaient rien. Alléluia. Alors, remarquez les versets 18. Il est venu pour annoncer. C'est encore une bonne nouvelle. La Bible est toujours la bonne nouvelle. Le Nouveau Testament en particulier, qui nous parle d'un sauveur merveilleux. Alors, Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé par une chose ou par une autre. Notre cœur se brise quelquefois pour une déception, un malentendu, un désappointement, une perte d'un être cher. Alors, Jésus est venu pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont prisonniers de leur habitude malsaine, de leur péché, de leur vice, aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les captifs. Alors, vous voyez, c'est un merveilleux sauveur. C'est ça qu'il veut faire. Il veut vous annoncer une bonne nouvelle en lisant l'Évangile. Puis il veut guérir votre cœur brisé. Il veut proclamer aux captifs, qui que vous soyez, sans exception, le Seigneur veut proclamer à vous, le captif, la délivrance. Puis il veut vous renvoyer libre. Je pensais encore récemment que c'est tellement merveilleux que Dieu nous a donné le libre choix. Je ne sais pas si vous réalisez, dans le jardin d'Éden, ils ont eu le libre choix. C'était un autre cadeau de la part de Dieu, choisir de manger ou de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Alors, Dieu donne à l'homme et à la femme le libre choix. Et encore aujourd'hui, on est libre de recevoir le Sauveur qu'il nous a donné, Jésus-Christ. Alléluia. On va regarder maintenant dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait pendant 3 ans et demi. Il a commencé son ministère à 30 ans, jusqu'à 33 ans et demi. Il allait de lieu en lieu, de village en village. Il se donnait la peine et d'arrêter au puits de Jacob. Il savait qu'une femme viendrait puiser de l'eau. Elle avait honte de son passé. Et puis elle venait puiser de l'eau sur l'heure du midi afin que personne ne la voie. Elle avait été mariée à plusieurs reprises, puis ainsi de suite. Puis maintenant, elle vivait encore dans l'adultère. Elle avait honte, mais Jésus l'attendait pour la sauver, pour lui parler du salut par grâce. Alors, c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de lieu en lieu, guérissant. Vous voyez sa puissance de guérison. Puis la Bible dit merveilleusement dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change point. Alors, ce qu'il est venu faire, il veut le faire encore et encore. Il n'a pas changé d'idée, il n'a pas changé d'humeur. C'est toujours la même chose. Alors, il allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus croyait au diable, il s'en est défendu contre le diable avec la parole. Alors, Jésus veut encore nous délivrer de la puissance satanique afin de nous avoir pour Dieu son Père. Amen. Regardons son obéissance maintenant. On retourne dans Philippiens. J'aime bien ce passage dans Philippiens chapitre 2. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin, le pourquoi, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce que j'aime à voir ici, il s'est dépouillé de sa forme de Dieu. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu un serviteur. Ça me fait penser au passage de Jean, chapitre 13, lorsqu'il s'est enlevé son vêtement et puis il s'est agenouillé devant ses disciples qui étaient là, réunis. Il a commencé à leur laver les pieds. Imaginez. Les pieds sales, boueux, pleins de sable, pleins de boue. Il n'y avait pas de suyer, il n'y avait pas de route pavée comme nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de bicyclette. Les gens marchaient sur des chemins boueux, sablonneux. Et puis Jésus lave leurs pieds à genoux devant eux. Ça nous dépasse. Lui, le Créateur des cieux et de la terre, s'est humilié à ce point-là qu'il est devenu le serviteur. Quel exemple pour nous, après qu'on est sauvés. On veut servir le Seigneur et se servir les uns les autres, sans exception. C'est ça. Dieu veut qu'on soit des serviteurs de Dieu après qu'il nous a sauvés par grâce. Amen. Alléluia. Ensuite, verset 8 encore, « Il s'est humilié, se rendant obéissant. » Vous savez, on ne réalise pas la souffrance qu'il a dû endurer, lui qui était sans péché. Imaginez là tous les péchés que vous avez commis depuis votre naissance, maintenant et jusqu'à la fin, de tous et de chacun ont été placés sur lui. Comment comprendre cela? Bien, un petit exemple peut-être. Si je prends un drap blanc, immaculé, qui vient de sortir de la laveuse, sécheuse, et puis là, je prends ce drap-là, puis je jette la peinture noire, de la boue, des excréments sur ce drap blanc. Le drap blanc devient noir, noir, taché. Ce drap sent mauvais. Alors, Jésus est devenu cela. Il est devenu péché. Péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Dieu est tellement bon. Il veut prendre vos péchés si vous n'êtes pas sauvés. Il veut les prendre. Puis il veut vous faire comprendre qu'il les a expiés, qu'il les a portés, qu'il s'en est chargé, pas seulement des péchés, mais de la maladie que vous avez et de la malédiction. La malédiction, c'est dans Deutéronome 28, vous allez voir cela. Toutes sortes de malédictions qui sont là sur les gens, mais quand vous venez à Jésus, il enlève la malédiction, la pauvreté, la misère, la petitesse, vos complexes d'insuffisance, puis quoi que ce soit. Alors, toutes sortes de malédictions qui sont sur la terre, Jésus est venu pour les prendre sur lui-même. Il a porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, la malédiction qui était sur l'homme et la femme. Alléluia. Verset 9. Son nom, maintenant, est le plus élevé de tous. Le nom de Jésus, de tous les généraux, de tous les premiers ministres, de tous les présidents, de tous les dictateurs. Jésus est le plus beau nom. Au nom de Jésus, un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, vous voyez, lui qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce n'était pas agréable, ce n'était pas facile. Il a souffert dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il pensait à ce qui l'attendait, la croix. Des grumeaux de sang étaient sur son front, pensant à toute la souffrance, à tous les péchés qui seraient placés sur lui. Et puis, à un moment donné, sur la croix, il a dit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a été abandonné parce qu'il est devenu péché. Puis Dieu ne peut pas tolérer le péché, ne peut pas le sentir, ne peut pas le voir. Alors, Jésus est devenu péché pour nous. C'est pour ça que le Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais à la fin, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, et on regarde verset 1. Pilate, lors du procès, avant sa condamnation, sa crucifixion, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Il n'était pas encore crucifié. Battre de verge. 39 coups moins 1. 40 coups moins 1, 39. Les soldats tressèrent une couronne d'épines sur sa tête. Pas une petite couronne en feuilles, là, mais une couronne des épines qui rentrait tout le tour de sa tête. Une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs! » Et lui donnait des soufflets, des coups de poing, des claques. On connaît ce terme-là? Il lui donnait des claques. Alors, maltraité, abusé, moqué, on se moquait de lui. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Puis là, il y avait soudoyé la foule pour qu'on demande qu'il soit crucifié. Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, » imaginez un Romain, il n'est pas un Juif, il reconnaît que Jésus est sans faute. Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même. » Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Auparavant, là, il avait dit, « Car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Pas aucun crime. Rien qui méritait la mort. Puis ça, cette mort-là, là, c'est la pire. Ce n'est pas la chaise électrique comme on a connu dans le passé ou la pendaison. La pire des morts, la plus humiliante qui soit. On laissait le corps au soleil, on le laissait là pendant des heures, de mourir de soif, de faim, de souffrance. Alors Jésus a tout enduré cela. Verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui étaient sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vous fais remarquer une petite chose. Jésus est mort sur la croix, nu. Nu, N-U, nu, sans aucun vêtement. Imaginez encore l'humiliation, en plus de la crucifixion, en plus des souffrances, en plus de tout ce qu'il avait enduré. Il paraît au public, là, nu devant tous, devant sa propre mère et devant tous. Mais je veux vous faire remarquer la dernière phrase. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand il a dit « Tout est accompli », ça voulait dire toutes les prophéties à propos du Messie ont été réalisées en lui. Toutes les promesses. Et une autre chose, tout est accompli. Il ne reste plus rien à faire pour obtenir le salut. Vous ne pouvez pas le mériter. Vous ne pouvez pas le gagner. Vous ne pouvez pas faire assez d'œuvres de pénitence, de sacrifices, de bonnes œuvres, de religion, quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas. Tout a été accompli. Une fois pour toutes, il est mort une fois. Parce que son sacrifice était tellement parfait, parfait, la perfection même. On ne peut rien offrir de mieux, de meilleur. Dieu a donné le meilleur qui soit, son propre Fils, Jésus-Christ, à la croix. Alléluia. Regardons maintenant le verset 6, s'il vous plaît. On va retourner là. Oui. Non, on retourne à l'image que vous venez de voir là. Bon, la religion dit « fait ». Fais ceci, fais cela, puis tu vas être sauvé. Mais Jésus dit, fais. Ça a été fait une fois pour toutes. C'est fait, c'est réalisé, c'est accompli, c'est complet, complet, complet. Il n'y a pas rien à y ajouter. Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. La justice de Dieu a été satisfaite parce que le plus grand sacrifice qui soit a été offert. Alors, on ne peut pas offrir chaque matin sur l'autel à nouveau. Jésus est mort une fois pour toujours, une seule fois. Alléluia. Alors, Jésus a dit, c'est fait à la croix. On avance encore un petit peu, s'il vous plaît. On va regarder dans Jean chapitre 19, verset 6. Verset 6, on retourne un peu. Ensuite, il est apparu. Là, on parle de sa résurrection, 3 jours après. Après sa mort, il ressuscite. Alors, c'est grandiose. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Pendant 40 jours, il est apparu aux uns et aux autres de ses disciples, mais à un moment donné, 500 personnes à la fois. Alors, c'est beaucoup de monde, c'est plus que nous sommes ici ce matin, là. 500 personnes. Alors, vous voyez là, une preuve irrévocable. Impossible à aller contre cette preuve, 500 personnes qui l'ont vu en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa résurrection est merveilleuse. Maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 12, on va regarder sa résurrection. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'esprit, mais de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, c'est assez simple. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, parce qu'il est ressuscité, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir, le droit, le privilège, l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Moi, je me souviens que ça fait maintenant, par la grâce de Dieu, 54 ans que j'ai reçu Jésus-Christ pour mon sauveur. Avant ça, ça se passait à Vancouver, là. J'étais barbier, j'avais de l'argent, j'avais la santé, j'avais une roulotte, une maison, compte en banque. Je travaillais à côté de la banque, puis mon plaisir, c'était d'aller déposer à la banque tout le temps, là. J'allais déposer à la banque, puis je me sentais. Mais à un moment donné, ça a commencé quand j'étais plutôt au centre-ville de Vancouver. Un voisin est venu me parler de Jésus-Christ. Il m'a invité à son église, je suis allé. Et puis, je trouvais ça curieux, ces gens-là Ils se réjouissaient, étaient contents, chantaient de toutes sortes de louanges. J'ai dit, comment ça se fait? Ces gens-là doivent être en boisson. Ils sont peut-être sous même. Alors, je vais aller voir au sous-sol. Il y a peut-être des caisses de bière, puis de vin, puis de gin. Mais je descends au sous-sol avec le prétexte d'aller à la toilette. Mais rien de cela. Ces gens-là ne buvaient pas, puis ils se réjouissaient dans le Seigneur. Ils dansaient devant le Seigneur. Alors, ça m'étonnait, ça me surprenait comment est-ce que ces gens-là étaient joyeux, contents. Alors, je veux la même chose, je veux la même chose. Mais ça a pris quelques semaines, quelques mois plus tard, quand j'ai accepté un autre poste de barbier ailleurs. Je suis allé sur l'île de Vancouver. Puis là, j'ai entendu l'Évangile prêché à la radio. La télévision n'existait pas à ce moment-là. À la radio, le prédicateur invitait... Il prêchait en anglais de la Californie, il prêchait, et puis invitait les gens à se mettre à côté de leur radio pour recevoir le salut par grâce. Alors, j'ai commencé à comprendre que c'était ça que j'avais besoin. Parce que depuis quelques mois, j'avais peur de mourir. Malgré l'argent, maison, roulotte et santé, je craignais la mort. J'avais peur de mourir. Parce que j'avais entendu à la radio que Duplessis était mort. Ça fait longtemps, hein? Duplessis était mort là-bas, là, puis à Manic 5. Puis j'entendais de cela à Vancouver, à la radio. J'ai dit à moi-même, j'ai dit, si Duplessis est mort, je vais mourir moi aussi. Vous voyez le raisonnement? Tous sont appelés et réservés aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quand j'ai compris cela, puis que j'ai vu que j'étais épeuré par l'affaire, puis j'étais pas malade du tout, en bonne santé. Mais lorsque ce prédicateur-là à la radio a fait l'appel pour le salut, je me suis imaginé à côté de mon radio, puis j'ai invité Jésus-Christ à venir dans ma vie. C'est pour ça qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir, le droit, le privilège de devenir enfants de Dieu. Puis un autre verset qui nous dit, le Seigneur se tient à la porte. Et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera et va souper avec vous, va rester avec vous. Alors, j'ai reçu Jésus-Christ pour mon sauveur cette fois-là. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai l'assurance du salut, la paix intérieure. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est qui est important aussi? C'est que c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Si maintenant... vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, vous n'êtes pas sûr de votre salut, c'est l'occasion idéale qui vous est offerte ce matin. Parce que c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est maintenant, on va changer dans 2 Corinthiens. Jésus est élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Dieu va vous accorder la repentance et le pardon des péchés. Et ensuite, nous voyons Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par grâce, c'est une faveur que Dieu accorde aux pécheurs. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, Dieu veut nous faire grâce, sauver par la foi, pour, différence, par grâce, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans 2 Corinthiens 6, 2, maintenant, s'il vous plaît, nous regardons. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 2, oui. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le moment, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous voyez, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. Si ce matin, vous n'êtes pas certain, si vous avez peur de mourir, si vous craignez la mort, puis si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous savez, on peut avoir l'assurance de notre salut comme une police d'assurance. Vous avez une police d'assurance sur votre maison, sur votre voiture. Vous savez que vous êtes assuré. La preuve, vous avez votre police d'assurance. Bien, la Bible nous atteste que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on peut avoir l'assurance de notre salut. Puis quand vous avez payé votre prime d'assurance, bien, vous êtes assuré. Puis Jésus a payé la prime. Jésus a payé la prime, le plein prix, complet, totalement payé d'avance, même avant que nous naissions. Jésus a payé le prix. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait recevoir Jésus-Christ? Vous n'êtes pas certain de votre salut? On va se fermer les yeux, puis on vous invite ce matin à lever la main. Si vous n'êtes pas certain, on veut vous donner l'occasion de recevoir ce merveilleux Sauveur, afin que vous receviez le cadeau de Noël, le cadeau de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Vous êtes ici? Oui, je vois cette main. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. Oui, je vois cette main. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Ceux qui ont levé la main, je vais vous demander de prendre un pas de foi. Voulez-vous un pas de foi? C'est-à-dire de vous lever, puis de venir ici, on va prier avec vous ce matin. Alléluia. C'est un pas de foi que vous prenez. Alléluia. Alléluia. Voulez-vous répéter après moi cette prière? Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'ai offensé par mes pensées, mes paroles, ma conduite. Je t'en demande pardon. Je demande que tu me sauves, que tu me pardonnes, que tu viennes dans ma vie, dans mon cœur, que tu fasses de moi ton enfant, ton racheté. Jésus, viens en moi, habite en moi, fais de moi ton enfant. Je te reçois maintenant par la foi et je déclare que je suis devenu enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. On va le remercier. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Alors, il y a un suivi maintenant. On vous demande de lire la parole. Si vous n'en avez pas une, on va vous en donner une, un Nouveau Testament, et de découvrir que Jésus vous aime. Connaissez-vous quelqu'un qui mourrait pour vous? J'en connais pas. C'est à peine s'ils peuvent nous prêter quelque chose ou nous donner ou nous offrir un café. Mais Jésus s'est livré lui-même à la croix pour nous sauver. Quel amour! Voulez-vous nous lever tous ensemble, s'il vous plaît? On va inviter nos musiciens à revenir. Alléluia. Alléluia. Alors, notre Père, tu nous as donné le plus beau cadeau qui soit, ton Fils. Nous en sommes reconnaissants. Je veux te louer, te remercier pour ton cher Fils, afin de faire de nous des fils et des filles de Dieu, en livrant ton propre Fils à la croix, et qu'il est ressuscité et qu'il vit maintenant éternellement. Père, que ta grâce nous accompagne en ce temps de Noël. Aide-nous à se rappeler l'importance, le cadeau grandiose que tu nous as fait en livrant ton Fils pour nous sauver gratuitement. Père, on veut te louer, te remercier dans le nom de Jésus. Voulez-vous, on va lever les mains et on va le remercier. On va l'adorer, lui rendre grâce. Alléluia.
Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies, pour cette nouvelle vie riche et abondante que tu nous offres. Merci pour le Saint-Esprit. Quel cadeau incroyable. Alléluia. Merci, M. Massot, pour ces paroles. Merci d'avoir rafraîchi en nous, justement, la puissance et le cadeau du salut. Amen. Alléluia. C'est une tradition, non seulement à l'Église, mais au Québec. Et on veut participer à ce dernier chant qui, je crois, explique très bien l'œuvre que Christ a faite sur la croix et comment que Dieu, par son amour, nous fait connaître son royaume et la vie éternelle. Amen.
Minuit chrétien, c'est l'heure.
Alléluia, quel beau chant. Amen. Je voudrais remercier l'équipe d'adoration et Lucie pour le spécial de Noël. Amen. Merci pour ton bon travail. Merci pour votre bon travail. Alors, c'est l'avant-dernier avant la fin de l'année. Il va y avoir une célébration la semaine prochaine. Donc, on vous laisse aller. Soyez richement bénis. Et au nom de l'Église et en mon nom, je veux vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, rempli de la présence de Dieu. Mais surtout que vous puissiez savourer les bénédictions que Dieu tient en réserve pour vous, pour que vous puissiez les étendre dans vos familles. Amen. Soyez richement bénis.